L'Éden de Seth en numéro 139 arroser la semence dans votre pensée 7e partie, le 26 novembre 2023 Brian Kozurek. Pasteur, inclinant la tête dans un mot de prière. Bien-aimé Père miséricordieux, nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour ta parole. Et puissions-nous être concentrés sur ta parole et sur rien d'autre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Frère Brian parle pendant 15 minutes de l'incident de Kisangani. Ce rapport a été séparé et peut être trouvé sur le site web juste en dessous de ce sermon. Là-dessus, nous allons passer à la parole et nous allons commencer le sermon. 2 Corinthiens 7.1 Ayant donc ces promesses, chers bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes. Sester et Dieu les appelle à l'aide. Cela signifie que tout ce que vous entendez aux informations, cela signifie que vous allez simplement l'effacer. Videz en votre pensée. Parce que les appels à l'aide à tout le reste, cherchent l'intervention de l'homme alors que nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Chers bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes, que faites-vous pour nettoyer quelque chose? Débarrassez-vous de tout. Cessez à dire de tout et de n'importe quoi, et concentrez-vous simplement sur une seule chose, de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Cela devrait être notre premier objectif en tant que chrétien, cessez de vivre une vie telle que les autres voudront la même vie que vous. Ils voudront le même Dieu que vous projetez. Autrement dit, votre obéissance volontaire à la vérité et à ce qui est juste vous amène dans un état de sainteté et purifie votre vie. Eh bien, je n'admettais pas pourquoi je me suis senti poussé à aller au hier, mais j'y suis quand même allé. Ou peut-être que c'était vendredi et j'y suis allé et j'allais entrer. Je me suis dit, eh bien, je vais juste y entrer et m'entraîner un peu, puis sortir, et je n'y suis jamais arrivé. Je suis allé dans la zone de basketball, parce que je trouve que ça sert un peu une thérapie pour mes bras et tout ça. Parce qu'il faut avoir la force pour tirer un panier, n'est-ce pas? Eh bien, j'y suis entré et il y avait un homme en fauteuil roulant, qui tirait au panier, qui était à environ 20 pieds, 6 mètres. Il a tiré et je me suis approché de lui et je lui ai demandé, est-ce que je peux vous prendre en photo? Et il a répondu, bien sûr. Et alors je lui ai demandé d'en tirer un autre. J'ai pris une vidéo et nous avons pu parler. Et je lui ai dit, j'ai eu un accident vasculaire cérébral il y a environ 1 an. Et j'utilise le tir au panier comme thérapie. Et j'ai demandé, depuis combien de temps êtes-vous dans votre fauteuil roulant? Il a dit, j'ai été heurté par un conducteur ivre quand j'avais 12 ans. Et il avait environ 40. Peut-être 45, 1 an. Il est donc en fauteuil roulant depuis très longtemps. Et j'ai dit, j'ai prié pour un homme dont on lui avait coupé le talon. Son pied était gangréné. Dieu a fait repousser le pied, il a enlevé la gangrène et cela a juste laissé une petite cicatrice et, bien sûr, son église a dit que ce n'était pas une guérison divine, parce qu'il avait une cicatrice. Et j'ai répliqué, eh bien, Jésus n'était pas non plus ressuscité des morts, parce qu'il avait des marques de clous aux mains et aux pieds. Quoi qu'il en soit, l'homme a alors dit, eh bien, je suis chrétien. Il a dit, j'apprécierais vraiment que vous priez pour moi. Je lui ai donc imposé les mains, et je m'attends à ce que Dieu le guérisse. Et je m'attends à entendre ce témoignage. Et je n'y pense pas qu'il se pourrait. Je pense que Dieu le peut. Et Dieu le veut, parce que c'est par ses meurtrissures qu'il est déjà guéri. Et j'ai dit, mais qu'il vous soit fait selon votre foi, vous devez croire cela vous-même. Et alors Dieu le fera pour vous. Alors, ils ont tous les deux demandé, et, où est votre église? Parce que vous savez. Alors, nous saurons. Mais le fait est que vous voulez vivre une vie chrétienne telle que les autres voudraient ce que vous avez, et vous voulez leur témoigner de ce grand évangile que nous avons, afin qu'ils aient faim et soif de justice. Parce que je n'ai mis, c'est pas pourquoi nous n'y sommes pas encore partis. Sauf que le dernier n'est pas encore entré ni formé comme enfant. Donc, apparemment, il en reste un ou deux. Et c'est un peu notre devoir, non pas de les rechercher, mais d'être disposés et prêts à rendre témoignage quand Dieu les amène sur notre chemin. Philippiens 4.8 Finalement, frères, que toutes les choses qui sont vraies, vous ne pouvez donc pas écouter les informations, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne sont pas vraies, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes. Eh bien, cela laisse de côté 90% des vidéos sur YouTube, toutes celles qui sont pures. Cela laisse de côté un autre 9%, n'est-ce pas? Toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation. Report en anglais se traduit aussi par rapport, compte rendu ou bulletin, reportage, note du trad. Cela laisse de côté les courriels que nous recevons, et s'il y a quelques vertus, et s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses. Cela ne dit pas que vous devez faire certaines actions et devenir saint en ceci et cela. Pensez simplement à la sainteté. Pensez à la pureté. Pensez à une bonne réputation. Pensez à des choses qui sont aimables. Et si votre pensée est remplie des bonnes choses de Dieu, cela se projettera autour de vous et générera une atmosphère. Des gens ont dit qu'ils étaient à moins de 8 pieds, 2,4 mètres, de frère Branham et ils ont dit qu'ils pouvaient sentir la présence de Dieu avec lui. Et frère James m'a dit, tu sais, il se tenait à environ 7-8 pieds, 2,13 à 2,44 mètres. Je me suis approché de frère Branham, parce que frère Branham, a-t-il dit, j'ai dîné avec lui. Il s'est assis à ma table, mais quand il s'est rapproché de la chair et que l'ange est revenu, il a dit, je suis monté là et je pouvais sentir cette révérence, cette sainteté, cette pureté. C'est ce qu'il dit ici. Toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et s'il y a quelques vertus, et s'il y a quelques louanges, pensez à ces choses. 9. Ces choses que vous avez apprises, et reçues et entendues, et vues en moi, faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. 2. Voyez-vous, c'est pourquoi je n'écoute pas les informations. Que vont-elles vous dire? De mauvais rapports. Tout est mauvais. Vous n'entendez jamais les gens se lever et dire, vous savez ce gars, cette femme faisait cela, et on a aidé cette personne à traverser la rue. Il n'y a pas de bonnes choses aux informations. Tout tourne autour du mal acquis. Et ça, continuellement. Et la Bible dit qu'à l'époque de Noé, lorsque les fils de Dieu ont épousé les filles des hommes, ils se sont multipliés. Nous avons passé cela en revue et leurs pensées étaient continuellement tournées vers le mal acquis. Leurs pensées étaient continuellement mauvaises. Eh bien, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. C'est juste continuellement mauvais. C'est ce que nous obtenons. C'est une réputation. Vous êtes bien mieux, comme frère Branham qui sortait tous les matins et allait pêcher. Eh bien, il a dit, je n'ai mis faisait pas ça juste pour pêcher. Il a dit, je fais ça pour m'éloigner de tout, pour me désencombrer l'esprit. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se purifiait. Alors purifiez-vous de tout. La solitude est l'un des meilleurs moyens de se purifier. Entendez-vous simplement avec Dieu et avec sa nature et tout ira bien. 9. Ces choses que vous avez apprises, et reçues et entendues, et vu en moi, faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, cette purification de votre vie est un état d'esprit. Et l'exemple que vous avez vu vous aidera aussi à avoir cet état d'esprit qui était d'abord en Christ, puis en l'apôtre Paul, puis en William Branham et maintenant c'est en vous. Nous avons donc ces hommes sur qui compter. Nous avons Christ sur qui compter. Il est Esther notre modèle, et nous essayons d'être comme lui. 1 Timothée 1.5 Or la fin du commandement Esther la charité, qui procède d'un cœur pur, vous pouvez créer un organisme de bienfaisance pour un faux motif, comme si vous vous attendiez à ce que tout le monde s'occupe du problème de votre localité et qu'il se serve dans votre poche pour régler le problème de votre localité. Eh bien, ce n'est-ce pas de la charité venant d'un cœur juste ou d'un cœur pur. C'est-ce une façon de dire que je n'ai mis, peut pas le faire. Mais c'est-ce possible. Comme on le dit, le gouvernement le fera. Eh bien, qui paie le gouvernement? Oh, je suppose que ce sont vos impôts. Mais voyez-vous, nous voulons que notre éducation soit gratuite. Le gouvernement peut le faire. Le gouvernement peut le faire. Le gouvernement peut faire cela. Le gouvernement peut payer les factures de santé des gens. Le gouvernement peut faire cela. Et écoutez, qu'est-ce que le gouvernement? C'est-ce le peuple. C'est-ce donc vous. Autrement dit, vous pouvez le faire, mais je n'ai mis veut pas le faire. Vous soumettez simplement quelque chose qui n'est mis vient pas d'un cœur pur. Ce n'est pas ce que j'appelle de l'amour quand vous voulez dire, oh, j'aime tout le monde. Donc, je veux que le gouvernement aime tout le monde. Oui, vous voulez que tout le monde vous aide. Mais vous n'aimez mais voulez pas vous aider vous-même. Voilà tout. Et je vais juste prendre Joe Biden en exemple. Il paye moins de $500, en œuvre de charité annuellement et il gagne des millions de dollars. Donc, s'il avait vraiment de l'amour dans son cœur, ou n'importe lequel d'entre eux, parce que c'est tout ce que sont les libéraux, si cela sort de votre poche, alors nous pourrons aider les gens. Pourquoi n'aimez pas être un exemple et sortir cela de votre propre poche? Alors vous avez une personne en qui vous pouvez croire. Mais je n'y crois pas en un homme qui est si pingre pour voler tout le monde, pour, 3, dévêtir Pierre afin de revêtir Paul. Cela n'y fonctionne tout simplement pas de cette façon. Donc, ce que Paul dit, c'est que ses pensées positives, ainsi que ses pensées de courage et de détermination, comme Chagar, Jephthé et Samson, l'un a pris une mâchoire d'âne. C'était fragile aussi. L'un a pris un aiguillon à bœuf et l'autre un bâton et ils ont défendu leur village. 1 contre 1 0 0 0 et ils ont dit, peu m'importe les chances, je vais le faire. Si ces gens, comme je l'ai dit à ce frère, j'ai dit, écoutez, ce que vous devez faire, c'est leur apprendre à se défendre. J'ai dit qu'il fallait enseigner aux gens qui étaient Chagar, Jephthé, sur avoir du courage et quand ils sont venus dans votre village, à 10 ou à 12, 80 personnes qui ont fui ce village, 80 contre 10 ou 12. Écoutez, s'ils étaient tous venus et avaient dit, et que tout le monde avait pris une machette et avait dit qu'une émir rentrerait pas dans ce village, ils auraient fait demi-tour parce qu'ils auraient vu que les chances étaient contre eux. C'est ce qu'ils ont fait au Vietnam et dans d'autres endroits, et c'est ce qu'a fait Chagar. Il a dit qu'ils nous ont attaqués, alors je vais simplement aller là-bas les affronter avec une aiguillon à bœuf. Les affronter avec une aiguillon à bœuf? Cela n'a pas d'importance. Dieu est avec nous. Les affronter avec une mâchoire d'âne? Oui. Et il tua 10 000 Philistins. Je t'ai pris un bâton. Ce n'est pas une question de, nous allons être si paisibles et si charmants. Écoutez, la Bible Néhémie dit pas que vous Néhémie, pouvez pas vous défendre. Frère Branham s'est assis sur le porche avec un fusil de chasse, parce qu'il y a des garçons qui ont dit qu'ils allaient venir violer leur fille. Et il était dans un hôtel. Alors il est resté assis là avec un fusil toute la nuit. Il faut donc faire preuve de bon sens dans ce monde. Vous Néhémie pouvez simplement pas vous frayer un chemin par l'intimidation, et vous Néhémie pouvez pas vous frayer un chemin par la passivité. il suffit de faire preuve de bon sens. 1 Timothée 1:5 Or la fin du commandement est la charité, qui procède d'un cœur pur, et d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. D'une foi qui n'espère pas une fraude. Hébreux 12:14 Poursuivez la paix avec tous les hommes, et la sainteté, sans laquelle personne n'est aimé verra le Seigneur. Donc, vous Néhémie ne pouvez pas voir Dieu sans la sainteté, et vous Néhémie ne pouvez pas le voir si vous Néhémie ne poursuivez pas la paix. Vous Néhémie ne pouvez pas vous bagarrer tout le temps, vous battre contre tout le monde et vouloir toujours vous plaindre de ce que les gens font et disent. Puis dire, je verrai le Seigneur. Vous Néhémie ne verrez pas le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Poursuivez la paix avec tous les hommes, et la sainteté, sans laquelle personne n'aimera verra le Seigneur. Donc, ce que Paul dit, c'est que les pensées positives, ainsi que les pensées de courage et de détermination créeront en vous une atmosphère d'assurance et de fermeté, qui apportera des circonstances de succès et de liberté. Combien ont déjà eu un enfant et cet enfant voulait sauter dans vos bras et alors vous avez jeté l'enfant en l'air et vous l'avez rattrapé? Eh bien, je ne vous recommande pas de le faire. Mais je dis simplement que des gens le font. Et si vous décidiez de ne pas rattraper d'enfant, pensez-vous que l'enfant vous laissera le faire une deuxième fois s'il survit? Non. Vous voyez? Mais cela ne fonctionne que si vous rattrapez l'enfant. Si, 4, vous dites, lors d'un incendie dans la maison et que l'enfant est au deuxième étage. Je suis en bas. Ouvre la fenêtre et saute. Cet enfant vous sautera dans les bras parce que vous lui avez apporté des circonstances de succès et de liberté, de fermeté, de détermination, d'atmosphère d'assurance. Donc, ce que vous créez autour de vous, l'atmosphère que vous créez autour de vous, vous êtes des petits messités et l'atmosphère que vous créez autour de vous, les autres peuvent le voir et en voudront. Eh bien, les gens Néhémie sont pas venus au message de William Branham parce qu'ils croyaient à la doctrine. Permettez-moi de vous le dire carrément, les gens sont venus autour de frère Branham à cause de la vie qu'il menait universellement. Ce n'était pas parce qu'il était un grand théologien, qu'il était plus malin que tous les autres théologiens et qu'il avait des doctrines qu'il n'avait pas, ce n'était pas ça du tout. C'était parce qu'il a vécu une telle vie, qu'il a dit, à propos d'un certain pasteur, il l'a dit à frère Collins. Il a dit, c'est drôle, je vis aussi près que possible de ce que Jésus-Christ a vécu, dans l'espoir d'attirer ce pasteur et cela s'est retourné contre moi parce que d'autres personnes pensent que je suis Jésus-Christ. Mais je voudrais avoir cette option, Néhémie le voudriez-vous pas? Au point que les gens pensent que vous ressemblez tellement à ce gars-là qu'ils pensent que vous êtes ce gars. Éphésiens 3:11-12 Selon le dessein éternel qu'il a exécuté en Christ Jésus, notre Seigneur, 12 en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par sa foi, sa révélation. Pas notre foi en lui. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il est dit par sa foi, mais qu'est ce que sa foi? C'est sa révélation. Quelle était la révélation de Jésus? Je suis le Fils de Dieu. Alors, quelle est votre révélation? Je suis un Fils de Dieu. Voyez-vous cela? Et quand vous comprenez que vous êtes un fils de Dieu et que vous vivez comme un fils de Dieu, vous pouvez parler à votre Père et il arrêtera les tempêtes, et il fera baisser la température. Il fera repousser un talon. Il fera toutes ces choses que vous avez vues à cause de votre relation, de votre confiance en votre Père. Hébreux 10:35-36 Néhémie, rejetez donc pas au loin votre confiance, qui a une grande récompense. Pensez simplement au fait que votre confiance a une grande récompense. Vous êtes confiant que Dieu l'a dit? Alors il fera ce qu'il a dit. N'est-ce pas? 36 Car vous avez besoin de patience, afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir les promesses. Regardez, la façon dont Dieu travaille, c'est toujours à la dernière heure qu'il répond à votre prière. Sœur Nessa Esther médecin au Royaume-Uni et elle a été menacée de perdre son emploi parce qu'elle refusait de se faire vacciner contre le Covid. Alors elle m'a écrit pour me demander conseil et je lui ai dit, eh bien, ai-je dit attendez, jusqu'à minuit parce que Dieu répond toujours à ceux qui attendent. Et donc elle est arrivée au vendredi soir et elle s'est dit, je vais perdre mon emploi. Et le premier ministre de son pays a levé l'interdiction et a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de se faire vacciner contre la Covid pour travailler en tant qu'infirmière ou médecin. Dieu l'a donc éprouvé, mais il l'a poussé dans ses derniers retranchements. Et il vous poussera dans vos derniers retranchements dans toutes circonstances, de tout, dans votre vie, chaque fois que vous avez un besoin réel, Dieu vous poussera dans vos derniers retranchements. Alors tenez bon et faites confiance à votre Père. Il ne vous laissera pas tomber. Il va vous rattraper. Amen. 5. Hébreux 10.22-24 Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, de révélation, ayant nos cœurs aspergés d'une mauvaise conscience. Autrement dit, si nos cœurs sont aspergés d'une mauvaise conscience, autrement dit, nous nous purifions nous-mêmes, et nos corps lavés d'eau pure. 23 Tenons ferme la profession de notre foi, révélation, sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis. 24 Et estimons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et comme je l'ai déjà mentionné, la seule chose que nous faisons, c'est inciter les gens à la colère. Mais vous devez les inciter. J'avais une sœur qui se battait contre sa belle-sœur il y a des années de cela. Et elle a dit, je n'ai mis sais pas quoi faire. J'essaie d'être gentil et tout le reste. Et je lui ai dit, tu es censé inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je lui ai dit, pourquoi Néhémie lui enverrais-tu pas des fleurs? Pourquoi Néhémie lui offres-tu pas du chocolat? En effet, il y avait un homme qui est revenu vers frère Branham et qui a dit, j'aimerais chasser le démon hors de ma femme. Pourriez-vous me montrer comment faire? Il a dit, bien sûr. Et alors il a dit, qu'est-ce que je fais? Il lui a répondu. Eh bien, a-t-il dit va lui acheter une douzaine de roses et une boîte de chocolat. Et il a dit que cela chasserait le diable de n'importe quelle femme. Vous voyez donc qu'il s'y prenait de la mauvaise façon. Il s'y prenait de la mauvaise façon. Tu es aïe un démon et bla, bla, bla. Non, c'est un peu d'amour, un peu de tendre miséricorde. Et ça va très loin. La Bible dit que pour avoir des amis, il faut être amical. Montrez-vous amical. Montrez-vous sympathique. Autrement dit, il ne suffit pas de dire que je suis amical, mais montrez-vous amical. Comment le faites-vous? Il y a certains actes que vous pouvez poser. Maintenant, le mot inciter signifie stimuler à faire quelque chose. Eh bien, comment stimule-t-elle sa belle-sœur à se retourner et à commencer à être amicale? Elle a juste fait des choses gentilles pour sa belle-sœur. Comment faites-vous pour que votre famille croie en vous? Vous commencez à faire de belles choses pour eux afin qu'au trône blanc Jésus dise, « Eh bien, vous savez quoi? Quand j'ai eu soif, tu m'as donné à boire. Quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Ou plutôt, quand Esther ce que je l'ai fait? Quand tu l'as fait à ta femme? Quand tu l'as fait à ton conjoint? Quand tu l'as fait à tes enfants? Quand tu l'auras fait jusqu'au plus petit d'entre eux, de mes frères? » Nous voyons donc ici que des pensées douces et indulgentes. Maintenant, avez-vous des pensées douces ou avez-vous des pensées grognonnes? Vous savez, comme un chat qu'on caresse dans le mauvais sens du poil? Vous voyez, vous pouvez caresser le chat dans le bon sens, et il ronronne, mais caressez-le à rebrousse-poil. Oh là là! Nous voyons donc ici que des pensées douces et indulgentes créent une atmosphère d'amour et de confiance, qui se solidifieront en circonstances de protection et de conservation. Comme la femme dont le mari n'était pas croyant, mais elle, elle était croyante. Et lui et ses amis ont eu une discussion au bar pour savoir s'ils existaient ou pas de vraies femmes chrétiennes. Et l'homme a dit, « Allez, les gars, allons à ma maison. je vais vous montrer une vraie chrétienne. Alors il lui a dit donne, 6, moi des œufs. Et elle a arrêté ce qu'elle faisait. Elle n'est mis s'estère pas disputer avec lui de cela. Tu as déjà pris ton petit déjeuner. Tu n'as plus besoin de petit déjeuner. Elle n'a pas dit que le nombre de tes calories était erroné ou que ton taux de cholestérol en sera affecté. Elle a juste dit, d'accord, je t'aime quand même. Et donc, elle lui a donné des œufs. Et puis il a dit que ce n'était pas comme ça que je les aimais. Et il les jeta par terre. Elle n'a pas pris un balai pour l'attaquer. Elle prit un balai pour ramasser le désordre qu'il avait créé. Elle n'était pas la cause de ce gâchis. C'est Esther lui qui en était la cause. Et Esther sortit de l'autre pièce et l'a simplement dit, « Jésus doit-il seul porter la croix et le monde entier n'ait mis rien porté ?»« Non, il y a une croix pour tout le monde et il y a une croix pour moi. » Et qu'Esther ce qu'était cette croix ? C'était son mari. Mais elle l'a dit d'une manière gentille. « Il y a une croix pour moi. » Et son mari et les deux autres hommes ont été conduits à Christ ce soir-là, parce qu'ils ont vu une vraie personne chrétienne. Alors, soyez cette personne chrétienne. Des pensées douces et indulgentes, des pensées de pardon, de pardonner, des pensées de pardonner. Autrement dit, le simple fait de leur pardonner crée une atmosphère d'amour et de confiance, qui se solidifiera en des circonstances de protection et de conservation. Et puis elles se solidifieront en des circonstances qui vous permettront d'apporter de l'aide et du pardon aux autres, ce qui permettra ensuite à ceux qui sont influencés par votre présence d'entrer dans une atmosphère d'espoir et de réconciliation. Vous voyez, ils veulent être autour de vous. Vos enfants veulent être autour de vous parce que vous êtes gentils. Les gens voulaient côtoyer grand-mère Dolly, même les gens qui n'étaient pas chrétiens, parce qu'elle était une personne douce. Ils avaient toujours quelque chose de bon à dire. C'est Esther pourquoi l'attitude que vous adoptez envers une personne peut déterminer sa destination éternelle. Saviez-vous que frère Branham a non seulement enseigné cela, mais qu'il l'a également vécu? C'est Esther pourquoi Billy Paul Nehemi pouvait pas faire la différence entre les amis de son père et ses ennemis. Il les traitait tous avec amour et gentillesse. Donc, c'est Esther vraiment un message pastoral, mais c'est Esther un message pour nous préparer au changement de nos corps. Éphésiens 4:31-32 que toute amertume, rage, colère, clameur, et médisance soit bannie du milieu de vous. Ainsi que toute malice. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Vous allez écouter une vidéo sur YouTube et Esther une confrontation. Quelqu'un contre la police ou la police contre quelqu'un ou quelqu'un contre quelqu'un. Une Karen. Comme ils les appellent. Ou ceci et cela. Et vous vous mettez en colère. Pourquoi? Vous vous en nourrissez. Néhémie vous en nourrissez pas. Éteignez cela. Tout comme vous éteignez, quand il y a des photos de femmes légèrement vêtues, éteignez également les autres choses. C'est Esther pourquoi j'aime les vieux westerns, car frère Branham aussi les aimait, parce que c'était toujours un homme bon contre un homme mauvais. C'était toujours l'homme bon qui sortait vainqueur, il n'y a rien qui vous fâche. Contre la paix de Dieu. Que toute amertume, rage, colère. Clameur, et médisance soit banni du milieu de vous, ainsi que toute malice. 32 Mais soyez bons les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu même pour l'amour de Christ vous a pardonné. 7 Et c'est Esther la première chose à laquelle nous devrions penser, quand nous voyons quelqu'un. Nous devrions dire, acceptez la grâce de Dieu. Voilà tout. J'aurais pu être un misérable. J'aurais pu être un pécheur. J'aurais pu être un ivrogne. J'aurais pu être ceci. J'aurais pu être cela. Mais par la grâce de Dieu, il m'a pris dès l'enfance et m'a sauvé. C'est Esther pour cela que vous voulez être reconnaissant. C'est Esther ainsi que notre prophète a vécu, et il nous a enseigné à faire de même. Ensuite, Nous arrivons à la douceur et à l'amour parfait là où il a dit que nous parviendrons à l'enlèvement. Colossiens 3.12-14. Revêtez-vous donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés. Eh bien, si on doit s'en revêtir, c'est-à-dire que ces vertus Néhémie sont pas vraiment là pour commencer. N'est-ce pas? Alors regardez-vous. De quoi suis-je vêtu? Suis-je vêtu de sainteté, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité de pensée, de douceur, de longanimité? 13. Vous supportant l'un l'autre. Que signifie supportant? Cela signifie que vous êtes indulgent, vous retenez juste votre langue. Cela signifie que vous n'aimez peut-être pas ce qu'ils font, mais que vous les aimez quand même, et vous pardonnez l'un l'autre. C'est-à-dire ceux qui vous ont fait quelque chose qui a besoin d'être pardonné, vous leur pardonnez. Si quelqu'un se querelle contre un autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Ou vous faites la même chose. Si vous continuez à semer les mêmes pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, cela n'émit peu que créer une atmosphère autour de vous qui influencera aussi votre caractère et les circonstances de votre vie. J'ai entendu des gens dire, eh bien, cette sœur, elle est tout simplement trop spirituelle pour moi. Oh là là. C'est une triste accusation. On dirait quelqu'un que je connais. Il y a un certain parent. C'est un homme et il Néhémie comprend rien à la foi. Si vous dites une chose, il en dira une autre juste pour le plaisir de se disputer. Il pense toujours qu'il a vraiment raison parce qu'il regarde les informations, qu'il Néhémie les regarde plus, mais il les écoute. Non. Cela signifie simplement qu'il faut mourir à soi. Cela vaut-il la peine d'argumenter? Cela vaut-il la peine de se battre? Mais non. Alors laissez aller. 13. Vous supportant l'un l'autre, et vous pardonnant l'un l'autre, si quelqu'un se querelle contre un autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Si vous continuez à semer les mêmes pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, cela n'émit peut que créer une atmosphère autour de vous, qui influencera aussi votre caractère et les circonstances de votre vie. Maintenant, un jardin est un endroit ou une parcelle de terre que vous mettez spécifiquement de côté pour cultiver des choses que vous aimez, que ce soit pour vous nourrir ou pour leur beauté ou simplement pour les regarder, comme des fleurs et des roses, etc. Un jardin est un endroit où l'on sème des semences, et où l'on vient arroser et cultiver ses semences, parce qu'on a un but en tête. Et si nous n'aimons cultivons pas notre jardin, le jardin de notre pensée, alors d'autres, 8, semences tombant dans notre jardin entreront en concurrence avec la chose spécifique que nous voulons récolter. Vous voulez tous être comme frère Branham, mais vous n'êtes pas disposé à semer les semences qu'il a récoltées. Vous n'êtes pas prêt à arroser les semences qu'il a récoltées. Par conséquent, il nous faut cultiver les semences que nous voulons et déraciner celles que nous n'aimons, voulons pas voir à la récolte. Autrement dit, il vous faut entrer dans votre jardin pour y arracher les mauvaises herbes, pour y travailler la terre et le sol. Donc, s'il n'est pas dur, l'eau s'en échappe. En fait, l'eau y pénètre plutôt. Autrement dit, nous n'y faisons pas tout ce travail, de prendre soin d'un jardin juste pour le plaisir de retourner la terre et de casser les pierres. S'il en est ainsi, alors la prison serait un endroit plaisant où aller. Vous pourrez y casser toutes les pierres que vous voulez, et vous pouvez retourner les jardins autant que vous voulez. Mais nous devons avoir un certain but à l'esprit. Un jardin doit être tracé, et il doit y avoir un plan dans votre esprit quant à la façon dont vous aimeriez voir votre jardin se développer. Car s'il n'y a pas de plan, vous aurez du mal à qui a essayé de récolter ce que vous avez semé. Pourriez-vous vous imaginer planter un jardin où vous sortez à taper une poignée de semences de carottes et vous les jetez simplement en l'air, sans vraiment vous soucier de l'endroit où elles tombent? Et ensuite, En plus de cela, vous jetez des semences de céleri et vous jetez d'autres semences. Et donc tout est terminé. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de similitude. Comment allez-vous les récolter? Essayez de prendre un sac de semences de maïs et de les jeter sur le sol. Répétez ensuite la même opération avec des semences de pastèque, de radis, de concombre, de tomates, de pommes de terre, d'haricots, de pois et tout ce que vous souhaitez récolter. J'imagine que semer peut être facile, mais au moment de la récolte, vous serez dans une vraie pagaille, essayant de trier ce que vous avez semé. Et pourtant, Sester ainsi que beaucoup d'entre nous vivent leur vie quotidienne et surtout leur vie spirituelle. Pouvez-vous imaginer quelqu'un essayant d'amasser des trésors terrestres sans plan? Avez-vous un plan pour votre trésor céleste? Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec l'accumulation de trésors célestes. Donc, si vous n'avez pas de plan, comment allez-vous réussir dans cette vie? Comment allez-vous réussir dans l'autre? Vous voyez? Eh bien, je suis une femme au foyer. Je reste à la maison. Non, vous avez un plan. Ma maison est encombrée, pleine de fouillis. Donc, je n'ai mis 10 pas cela de ma maison. Je dis cela à titre d'exemple. Alors vous dites, bon, je vais appliquer la 26e règle. Je vais prendre 26 articles par jour et je vais m'en débarrasser. Mettez-les à la poubelle, faites ce que vous voulez. Ou bien, est-ce ce que vous les mettez simplement dans un sac et vous remettez ce sac ailleurs? Et donc maintenant, vous avez tout ce fouillis. Oh, oui, j'ai nettoyé 26 articles. Où sont-ils passés? À la poubelle? Eh bien, non, je les ai simplement déplacés d'un endroit à un autre. Ça, ce n'est pas faire le ménage dans sa maison. Nettoyer sa maison, c'est un nettoyer sa maison. Nettoyer votre esprit, c'est un nettoyer votre esprit. Autrement dit, Néhémie les gardait pas un jour de plus. Eh bien, je connais Sœur Suzy. Elle aime bavarder. Alors je vais l'appeler et nous pourrons nous divertir et bavarder. Mais ensuite, je serai à nouveau chrétienne. Pensez-vous que vous le serez vraiment? Ou pensez-vous que, neuf, vous aurez sur vous son esprit? Écoutez, c'est très facile de ramasser un esprit. C'est pourquoi je garde cette église propre. C'est pourquoi certains hommes sont entrés dans cette église et l'un d'eux n'était qu'un coureur de jupons. Et je lui ai demandé de partir. Il s'est dit, qui diable vous demanderait de partir? Moi, parce que je n'ai mis, veux pas que les jeunes de cette église deviennent des fornicateurs et des adultères comme l'était cet homme. Vous voyez? Nous devons donc nettoyer cette église. Nous devons nettoyer nos vies. Nous devons créer une atmosphère d'attente, que ce que Dieu a dit va se produire. Et vous Néhémie pouvez pas le faire en faisant des compromis. Matthieu 6.19-26. Pourquoi, Néhémie vous amassez pas de trésors sur la terre, où la tanière la rue corrompe, où les voleurs s'introduisent et volent. Vint même amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rue Néhémie corrompe, et où les voleurs Néhémie, personne ni Néhémie vole. Autrement dit, faites tout votre possible pour l'endroit où vous souhaitez aller. Néhémie vous inquiétez pas pour cet endroit-ci. Cet endroit est ordonné à être brûlé, et vous le savez. Avez-vous donc déjà vu un homme riche entrer dans son cercueil avec les poches remplies d'or et d'argent? Je Néhémie pense pas, parce qu'au moment où il sera enterré, ils auront disparu. Au moment où il sera en pompe funèbre, il n'y en aura plus. Il Néhémie vous dise pas sur votre lit de mort, il Néhémie dise pas que vous avez fait de bonnes affaires. Oh là là! Vous pouviez certainement vendre des maisons, vous pouviez certainement commercialiser n'importe quoi. Non, ils diront, ce gars-là était quelqu'un de très généreux. Il a aidé celui-ci et celui-là. Les gens qui se sont présentés aux funérailles de mon beau-frère, 1200 personnes, Beaucoup d'entre eux étaient Amish. Beaucoup d'entre eux ont parcouru 50 à 60 miles, 80 à 95 kilomètres. Pourquoi? Eh bien, il allait chez eux le dimanche soir. Il apportait un gallon de crème glacée pour que les enfants puissent en manger, ou il faisait autre chose pour eux, ou il les aidait à la ferme, ou il les aidait à installer une clôture, ou il les aidait à faire ceci ou cela. Et les gens l'aimaient. Ma belle-mère était de la même étoffe. Elle a eu beaucoup de monde à ses funérailles, parce qu'elle a eu des pêcheurs tout comme des saints, des gens dont vous, Néhémie, voudriez même pas approcher. Et pourtant, ils sont venus parce qu'elle les a traités avec dignité. C'est ainsi que nous sommes censés être. Beaucoup d'entre nous luttent parce que nous n'avons pas appris ce premier principe de semer et de récolter. Très souvent, nous regardons l'homme riche et nous disons, c'est un escroc, et c'est pour cela qu'il est riche. Maintenant, c'est peut être vrai en partie, mais la raison pour laquelle l'homme est riche, c'est parce qu'il a appliqué le principe de semer et de récolter que beaucoup d'entre nous, Néhémie, sont pas prêts à appliquer. Il avait un plan pour s'enrichir et il était dévoué à ce plan, et donc toute sa vie s'est structurée autour de ce plan. Et donc il a récolté ce qu'il a semé. Je n'ai aucune jalousie envers ceux qui ont travaillé très dur pour ce qu'ils ont. Ils le méritent. Mais j'ai pitié d'eux de la même manière que j'ai pitié du pauvre agriculteur qui perd ses récoltes à cause de la grêle ou des tornades. 10. J'ai de la peine pour la personne qui a de l'argent dans sa poche. Mais ses enfants le méprisent et ils le haïssent et il finit par divorcer. Il a peut-être l'argent, mais voyez-vous, il n'a pas non plus semé pour sa famille, donc il n'a pas une victoire complète. Beaucoup d'entre eux, si ce n'est Esther la majorité des très riches, ont accumulé leur trésor au mauvais endroit. Parce qu'ils n'aimaient pourront profiter de ce qu'ils ont semé que pendant une saison. Par conséquent, je veux que ce qui n'aimait rit pas et qui n'espère pas manger par les mythes. Je veux ce qui restera vraiment avec moi tout au long de l'éternité. Et Jésus nous a dit que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses nous seront ajoutées par-dessus. Maintenant, quelles sont les choses qui seront ajoutées? Eh bien, ouvrons nos Bibles à Matthieu. Maintenant, dans Matthieu 6.27-24, j'aimerais que vous remarquiez qu'il nous est dit de Néhémie pas nous inquiéter pour certaines choses. Or, il Néhémie nous dit pas que ces choses Néhémie sont pas importantes pour nous, mais que notre pensée relative à ces choses doit être dirigée, non pas vers ces choses, mais vers le royaume de Dieu d'où viennent toutes les bonnes choses. Autrement dit, Seigneur, je veux travailler dur, je veux gagner de l'argent pour pouvoir aider les autres qui Néhémie ne le peuvent pas, ou qui vivent dans une telle pauvreté que si je peux les aider à mettre des chaussures à leurs pieds, ils en seront des meilleures personnes. Ou si je peux les aider à mettre de la nourriture sur la table, alors ils en seront des meilleures personnes. Voyez-vous? Donc, il Néhémie dit pas que ce n'est pas important, il dit juste de rediriger nos pensées. Autrement dit, si mon motif est d'aider les autres, c'est de cela dont il parle, d'où viennent toutes les bonnes choses. Autrement dit, Jésus leur dit qu'ils doivent se concentrer sur la bonne chose. C'est le même principe que nous observons dans le traitement des pauvres dans les pays très arriérés. Un jour, un frère m'a dit, « Eh bien, pourquoi fais-tu tout cela? Vous aidez ces églises, vous faites ceci, cela et tout. » Et j'ai répondu, « C'est parce que je n'emporterai pas l'argent avec moi, je ne peux pas l'emporter avec moi. » Et je n'ai vais pas me constituer mes propres coffres pour que mes enfants soient riches ou même que ma femme soit riche. Parce que si nous n'ai souffrons pas avec lui, nous n'ai régnerons pas avec lui. Et si mes enfants n'ai souffrent pas, ils n'ai régneront pas. Et si ma femme n'ai souffre pas, elle n'ai régnera pas. Vous voyez, les gens gâtent leurs enfants. Ils leur donnent tout ce qu'ils veulent. Par exemple, je vais juste vous raconter une histoire que j'ai entendue l'autre jour. il y avait une petite fille, dont les parents trop gâtés. Elle n'aimait ni comprenait pas ce que signifiait le mot non. Et un jour, la foudre a frappé et les fils électriques sont tombés devant leur maison et ils ont fait des trous dans le sol. Et elle dit, oh, regardez, ça scintille. S'estère comme un cierge magique. Et elle s'en a approché, et elle a attrapé la chose et son père a dit, non, Néhémie fais pas ça. Néhémie fais pas ça. Et elle Néhémie savait pas ce que signifiait le mot non. Elle n'était pas une enfant obéissante. Et donc elle a attrapé le cierge magique, comme elle le pensait, et elle est morte instantanément. Néhémie vous souciez donc pas de certaines choses. Maintenant, il Néhémie nous dit pas que ces choses Néhémie sont pas, 11, importantes pour nous. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Les gens meurent de faim et nous avons pitié d'eux, mais si nous nous contentons de les nourrir, ils seront toujours dépendants de nous. Un frère que j'ai aidé pendant 20 ans en Ouganda et j'ai finalement parlé d'environ 8 frères là-bas. J'ai dit, écoutez, je vous ai aidé pendant 20 ans. J'ai eu un AVC. Je n'ai plus les mêmes moyens que j'avais avant, alors je un peu réduit. Je veux m'assurer qu'on s'occupera de ma femme, parce que quand je serai parti, je veux m'assurer qu'on s'occupera d'elle. Et donc c'était bien. À ce stade, je n'ai mis m'attendais pas à ce que les gens la rejettent, ils ont compris. Mais environ un mois plus tard, il m'a dit, je vais aller en Tanzanie. J'ai été invité à prêcher là-bas et je n'en ai pas les moyens. Je n'ai pas l'argent. Et j'ai dit, eh bien, frère Branham a dit que si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. J'ai dit, regarde à lui, il est Esther ton père. Nous avons tous le même père. Et vous savez quoi? Il m'a envoyé, l'autre jour. Il m'a envoyé des photos, tout un tas de photos de sa réunion très réussie, et d'une manière ou d'une autre, Dieu lui a donné un moyen de voyager sans s'endetter. Il était si heureux de voir le Dieu surnaturel prendre le contrôle de la situation. Comme frère Bosworth disait, j'irai. Il a dit lorsque Dieu m'envoya un endroit. Il a dit, je savais que si Dieu m'avait envoyé, j'allais à la gare avec mes valises prêtes. Mais je n'avais pas d'argent pour acheter un billet. Et il a dit que quelqu'un pouvait venir et dire, oh, où vas-tu? Je vais à tel ou tel endroit prêcher. Oh, puis-je aider? Et ils achètent le billet. Et Esther comme il disait, le Dieu surnaturel était toujours là. Et je vous ai dit d'écrire ces choses dans un livre. Chaque fois que Dieu vous aide avec quelque chose, écrivez-le dans un livre. Et quand vous les relirez, vous vous direz, oh là là, j'avais tant de choses pour lesquelles Dieu a intercédé dans ma vie. Oui, il a veillé sur vous. Comme cette personne l'a dit, selon frère Branham, des empreintes de pas sur le sable du temps. La personne Esther arrivée au ciel. Et il a dit, eh bien, Jésus, j'ai juste une question. Pourquoi marchais-tu avec moi dans les bons jours et dans tout le reste, sauf dans les mauvais jours? Il a dit qu'il n'y avait qu'une seule empreinte de pas. Il a répondu, c'est Esther parce que je te portais et que ce sont mes empreintes. Donc, vous voyez, Dieu interviendra pour vous. Il combattra vos batailles pour vous. Néhémie les combattait pas du tout. Si vous allez vous battre, alors Dieu vous laissera vous battre. C'est Esther juste. C'est Esther comme ça que ça marche. Si vous pensez que l'argent va régler une situation, vous allez simplement dire que l'argent va régler la situation. J'essaie d'en avoir. Si vous allez à lui et dites, Seigneur, je n'ai mis ses pas. Je n'ai aucune idée de la façon dont tu vas faire cela, mais voilà ce dont j'ai besoin. Il le fera. Et vous direz, comment cela a-t-il pu arriver? Mais c'est Esther arrivé, parce que Dieu l'a fait. Très bien. Néhémie vous souciez donc pas de ces choses. Mais si nous leur apprenons à semer et à moissonner, Alors ils apprendront à subvenir à leurs propres besoins. 12. Eh bien, j'ai appliqué cela dans l'œuvre missionnaire où j'ai vu des hommes venir me voir et dire, « Eh bien, j'ai 30 hommes dans mon église, mais je n'ai pas de dîme. Je n'ai émis peu pas vivre de la dîme. Je n'ai pas de dîme, parce qu'ils n'ont pas de travail. » J'ai dit, « Eh bien, est-ce ce qu'ils mangent tous ? Oh oui, il y a beaucoup de nourriture dans la forêt. Vous pouvez sortir et cueillir des bananes. Vous pouvez cueillir de la papaye. Vous pouvez cueillir des ananas. Vous pouvez cueillir du café. Vous pouvez cueillir tous ces produits. Et gratuitement. » Dieu les a placés là. J'ai dit, « Eh bien, pourquoi vous n'en avez pas ? S'ils ramassent 10 grains de café, demandez-leur d'en apporter un à l'église. S'ils ramassent 10 bananes, demandez-leur d'en apporter une à l'église. S'ils ramassent 10 ananas, demandez-leur d'en apporter un à l'église. » J'ai dit, « Maintenant vous avez la dîme. » Ou j'ai dit, « Vous, en tant que pasteur, je vous soutiens. Vous pouvez acheter 30 pelles et maintenant vous avez une équipe de 30 creuseurs de fossés et vous pouvez très bien travailler. Il y a donc beaucoup, beaucoup de façons. Et donc, ce que nous avons finalement fait, c'était qu'à cette église, nous avons acheté 22 parcelles de terre aussi grandes que 8 acres, aussi petites que 3 acres. Et nous avons dit, maintenant, passez un contrat avec votre église. Que chaque famille dans l'église qui est intéressée à avoir son propre endroit pour cultiver, puisse cultiver d'autres choses comme des pommes de terre et des choux et des choses comme cela. Vous avez un sol très fertile. Et puis, quand ils sont allés que chaque personne dans l'église, s'il y a 30 personnes qui sont au chômage, ils ont 30 travailleurs dans les champs et vous pouvez avoir chacun un quart d'acre parce que vous savez, 8 acres divisé par 4. Sester 32. Vous avez donc un quart d'acre qui mesure 100 mètres sur 100 mètres ou un peu plus de 100 mètres sur 100 mètres. Et vous pouvez vous aider les uns les autres et l'un peut apprendre à l'autre comment labourer et comment semer ceci et cela. Et puis, vous aurez toutes ces récoltes venant de l'église. Et j'ai vu des photos. Ils m'ont envoyé des photos de ce qu'ils ont apporté à l'église et ils ont étendu une grande et énorme nappe. Et il y avait un empilement de maïs et d'autres choses qu'ils avaient apportées. Alors, et puis, bien sûr, le pasteur a été en mesure de les vendre et d'en tirer un revenu pour vivre. Vous pouvez donc leur apprendre à grandir. Et vous pouvez le faire. Par conséquent, ce que nous cherchons, c'est à avoir la bonne orientation. Il a dit de n'aimer pas s'inquiéter de ces choses spécifiques. Très bien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Néhémie, vous inquiétez pas du manger, ou d'une pièce spécifique de vêtements dont vous avez besoin, mais concentrez-vous sur la provenance de ces choses et vous en aurez toujours beaucoup. Je me souviens que Frère Vell m'a dit qu'il enseignait sur la foi et qu'il connaissait une sœur à Saskatchewan qui aimait aider les indigents et les pauvres. Et un homme est venu chez elle en chaussettes, et il neigeait dehors et il a dit, « Je n'ai pas de chaussures. » Alors, elle a dit, « Eh bien, prions. » Et ils ont prié pour que Dieu leur apporte une paire de chaussures. Le problème, c'est qu'ils portaient du 13. 13, il n'y avait qu'une seule autre personne dans la ville qui portait du 13 et c'était un homme riche. Et cette nuit-là, Dieu l'a réveillé. Et il a dit, « Apporte une de tes paires de chaussures à telle ou telle adresse. » Et c'est ce qu'il fit, et il exauça les prières de la femme. Donc, vous savez que Dieu fera les choses d'une manière qui n'est mis, peut-être expliquée que par le fait que c'est divinement et surnaturellement fait. Et vous pouvez donner à Dieu toute la louange, l'honneur et la gloire. Maintenant, je sais que Sœur Vell m'a dit que c'était une blague, et nous ne devrions pas blaguer du haut de la chair. Mais elle a dit qu'il y avait une femme qui priait pour avoir de la nourriture et que des garçons l'entendaient prier ainsi tous les jours. Elle ouvrait les fenêtres et priait pour de la nourriture. Alors ils ont pensé qu'ils allaient lui faire une farce. Et donc ils ont mis de la nourriture sur son porche. Ils se cachèrent dans les buissons. Et quand elle Esther sortit, elle a dit, « Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, tu as exaucé ma prière. » Et ils ont dit, « Non, Dieu n'a pas répondu à votre prière. C'est Esther nous qui l'avons fait. » Et elle a dit, « Peu m'importe qui l'a livré, même si c'était Satan lui-même. J'ai remercié le Seigneur, parce que je l'ai demandé au Seigneur et qu'il me l'a remis. C'est Esther comme ça que ça devrait être. Que vous devriez remercier Dieu pour chaque circonstance. Peu importe qui le fait. Peu importe que ce soit le gars que vous détestez ou le gars que vous aimez. Peu importe que ce soit la femme que vous détestez ou la femme que vous aimez. S'il répond à une prière, il répond à une prière. Vous savez, les gens disent, eh bien, je n'accepterai rien de cette personne. Pourquoi? Pourquoi devriez-vous considérer la personne ou le vase? Cela n'est mis vous rien dire. Ôtez vos yeux du vase. Fixez vos yeux sur le Dieu qui répond à votre prière. Peu importe donc par qui cela passe. Apprenez à semer et vous récolterez. 2 Corinthiens 7.7-10 Que chacun donne, qu'il sème, comme il l'a résolu en son cœur, non avec regret, ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela me rappelle l'histoire d'un homme d'ici dont la famille a eu une mauvaise récolte et qui faisait face à un hiver rigoureux. Il n'ait mis leur restait plus qu'un sac de céréales de la mauvaise récolte et les enfants voulaient le manger. Le père répondit, non. Car si nous faisons cela, nous mourrons certainement. Ils ont survécu à l'hiver, mais c'était une véritable lutte. Mais quand le printemps Esther arrivait, le père a planté ses semences et elles ont produit une récolte abondante. Maintenant, Paul continue, Bible amplifiée et Dieu, qui fournit de la semence au semeur et du pain à manger, pourvoira et multipliera aussi vos ressources pour semer, et augmentera les fruits de votre justice, qui se manifeste dans une bonté, une gentillesse et une charité active, et ainsi vous serez enrichis en toutes choses et de toutes les manières, afin que vous puissiez être généreux, et votre générosité, telle que nous l'administrons, apportera des actions de grâce à Dieu. Et donc, vous voyez, nous devons avoir le bon centre d'attention et le bon plan si nous voulons faire pousser du jardin de notre pensée une moisson de bénédiction éternelle. Nous nous demandons comment nous allons être des rois et des sacrificateurs. Ça commence maintenant. Entraînez-vous à devenir un roi. Entraînez-vous à être un intercesseur. C'est Esther ce que fait un sacrificateur, n'est-ce ce pas? 14. C'est Esther un médiateur. Il nous Esther promis que Dieu, qui nous a donné la semence pour commencer, multipliera aussi cette semence alors que nous le faisons correctement. Nouvelle version internationale. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour nourriture, pourvoira aussi à votre semence et augmentera votre provision de semence, et augmentera la moisson de votre justice. Vous serez enrichis de toutes les manières afin que vous puissiez être généreux en toute occasion, et à travers nous, votre générosité se traduira en action de grâce à Dieu. Nous savons que la semence Esther sortit de lui et qu'elle contient donc déjà tout ce dont nous aurons besoin pour vivre et pour produire un caractère qui Esther à son image, sa pensée. Et juste une autre pensée ici que je veux juste ajouter, ce n'Esther pas que l'homme a écrit la lettre et a dit, voudriez-vous bien prier pour ces gens, s'il vous plaît? Parce que s'il avait dit cela, je suis sûr que l'argent aurait été là. Les gens, par bonté de cœur, enverraient de l'argent pour aider, pour acheter de la nourriture, pour acheter des vêtements pour les enfants, peu importe. Mais non, ils m'ont dit et David a dit, j'ai été jeune et maintenant je suis vieux et je n'ai jamais vu le juste être abandonné du Seigneur ni mendier du pain. Alors Néhémie venait pas dire, nous avons besoin de votre aide. Ils n'ont pas besoin de notre aide. Le frère a dit, oh, je Néhémie peut pas y aller. Je n'ai émis peut pas faire ce voyage missionnaire, parce que j'ai besoin de ton aide. Et j'ai dit, je suis désolé mais que je n'ai émis peut pas t'aider. Mais mon père le peut. Va lui. Vous voyez? Quand il a appris que Dieu l'avait aidé. Alors il l'a dit, et, Dieu a fait quelque chose de surnaturel dans ma vie. Il s'est-il frayé un chemin là où je n'ai pas pu le faire. C'est-il ce que Dieu veut faire? C'est-il la raison de sa présence? C'est-il ce qu'il veut faire dans chacune de vos vies? Dieu veut vous aider en tout et pour tout. Soyez comme un enfant. Et demandez-lui. Nous savons donc que la semence est sortie de lui et qu'elle contient déjà tout ce dont nous aurons besoin pour vivre et pour produire un caractère qui est à son image, de Pierre 1.2-4 grâce et paix vous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. 3 Puisque sa divine puissance nous est donnée toutes choses qui appartiennent à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu, 4 Par lesquelles nous sont données d'extrêmement grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Que voulez-vous dire? Je demande ceci et cela et autre chose, et il n'y m'a donné qu'une promesse. Eh bien, vous savez quoi? Croyez à la promesse. Et elle se manifestera. Elle sera là. Vous voyez, c'est-à-dire ce qu'il nous a donné. Sa parole. Si je vous donne ma parole, que je vais faire quelque chose. Je vais faire ce quelque chose. Esaïe 60.21 Et ton peuple entier sera juste. Ils posséderont en héritage le pays pour toujours, la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je sois glorifié. Pouvez-vous voir le dessein but de Dieu dans sa plantation? Esaïe 61.3 Afin qu'il soit appelé arbre de justice, la plantation du Seigneur, afin qu'il soit glorifié. 15 Ainsi, votre plantation et votre vase de justice lui donnent la louange, lui donnent la gloire. Par conséquent, le but d'être planté par Dieu est de produire sa gloire, à savoir, ses pensées dans une forme exprimée. Dans Éphésiens 1.2-5, nous voyons que nous étions en Christ avant que le monde ait mis soit formé, donc nous sommes une semence qui était en lui. Et on nous dit ici que pendant que nous étions encore en lui, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et puis il continue en nous disant que pour produire ces semences qui étaient en lui, il devait avoir un plan. Au verset 5, il nous est dit qu'il a planifié à l'avance afin que nous parvenions à l'adoption des enfants pour lui-même. Et c'est selon sa volonté ou son plan qu'il élucide davantage au verset 10 et 11 où il nous dit que cela se produira selon son dessein, son plan. Par conséquent, j'espère que vous voyez l'importance d'avoir un but ou un plan pour chaque semence pensée que nous voulons produire à la récolte. Pour récolter, nous ne devons pas seulement semer, mais nous devons aussi apprendre à semer. Parce qu'on ne peut pas semer n'importe comment et s'attendre à récolter une récolte ordonnée. Esaïe 61.11 Car, comme la terre fait jaillir son germe et comme un jardin fait germer les choses qui y sont semées, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Maintenant, le jardin est aménagé dans un ordre. Comme nous le voyons dans Genèse 1.11, que chaque chose produise selon son espèce, ou sa nature. Donc, si vous voulez de la rhubarbe dans ce coin, plantez simplement des semences de rhubarbe. N'y plantez pas quelque chose d'autre, car chaque chose poussera selon son espèce. Si vous voulez vos pastèques tout ensemble, plantez-les dans ce coin. Si vous voulez vos raisins et quoi que ce soit, plantez-les simplement là où ils sont censés être. Donc, chaque chose selon son espèce. Mais avant même que nous voyions Dieu établir cette loi de la reproduction, il a d'abord rassemblé tout ce qui était de la même espèce, puis la loi de la reproduction a été promulguée. Remarquez dans Genèse 1.9-10. Nous voyons que tout a été rassemblé selon la même espèce, avant que la loi de la reproduction n'émise soit introduite dans la création. Par conséquent, si nous voulons être capables de produire du jardin de notre pensée de la même manière que Dieu a produit de sa propre pensée, nous devons aussi suivre son exemple. Par conséquent, nous devons avoir un but et un plan pour les choses que nous voulons semer et récolter. Nos jardins doivent avoir un ordre si nous espérons récolter une récolte bonne et rentable. Si vous faites le ménage dans votre maison, Néhémie commencez pas dans votre chambre à coucher, à tout empiler sur le lit et d'aller ensuite à la cuisine pour tout empiler. Non. Faites une pièce à la fois. Dans votre jardin, vous Néhémie plantez pas partout et vous Néhémie vous attendez pas à obtenir quoi que ce soit. Ayez un ordre à cela. 16. Ayez un plan pour ce que vous faites. Nettoyez une pièce. Assurez-vous que c'est stère bien fait. Ensuite, vous passez dans une autre pièce. Vous Néhémie laissez pas toute la maison pour Néhémie pas avoir d'endroit où manger ou quoi d'autre. Il vous faut preuve d'intelligence à propos de ces choses. S'estère ainsi que Dieu veut que nous plantions dans notre pensée. Faisons preuve d'intelligence à ce propos. Je Néhémie veut pas que toutes sortes de choses soient plantées dans les mêmes cellules. J'aimerais les répandre afin qu'elles produisent la justice. Et s'estère ce qu'il nous dit. Remarquez dans Genèse 1.9-10. Nous voyons que tout a été rassemblé selon la même espèce avant que la loi de la reproduction Néhémie soit introduite dans la création. Par conséquent, si nous voulons être capables de produire du jardin de notre pensée de la même manière que Dieu a produit de sa propre pensée, nous devons aussi suivre son exemple. Par conséquent, nous devons avoir un but et un plan pour les choses que nous voulons semer et récolter. Nos jardins doivent avoir un ordre si nous espérons récolter une récolte bonne et rentable. Si nous avons un plan par lequel je me vais me débarrasser de 26 objets, allez dans votre placard. Commencez par là. Commencez dans une pièce. Débarrassez-vous de 26 objets de votre placard. Ensuite, si vous avez 26 objets de plus dont vous voulez vous débarrasser, allez dans vos tiroirs. Puis allez dans votre sous-sol. Faites-le de manière ordonnée, mais Néhémie le faites pas un peu ici, un peu là, un peu ici, un peu là. Cela Néhémie se fera jamais. Par conséquent, nous devons avoir un but et un plan pour les choses que nous voulons semer et récolter. Nos jardins doivent avoir un ordre si nous espérons récolter une récolte bonne et rentable. Sinon, pour commencer, vous passerez tout votre temps à essayer de trier ce que vous avez dans votre jardin. Tant que nos pensées sont sans but, on leur permet de dériver sans but et elles n'y porteront jamais de fruits. Les pensées qui n'ont pas de but tombent facilement dans les angoisses de la vie, et la recherche du plaisir et d'autres choses qui vous privent si facilement de la victoire, de la paix et de la grâce, et vous conduisent à une vie de faiblesse et d'apitoiement sur soi. Vous savez, mes parents étaient vraiment bons quand j'étais jeune parce que, lorsque la télévision a été inventée, nous en avions une. C'était à peu près aussi gros que ça. Et on nous autorisait, je pense, au début, une heure par semaine, puis c'était devenu une heure par jour. Puis c'était devenu deux heures par jour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont dit, ok, je vais vous laisser en avoir assez. Par exemple, vous pouvez regarder telle ou telle émission, et si vous ne voulez pas regarder, vous allez dans votre chambre, vous lisez un livre. Mais nous allons rassembler le reste de la famille et regarder telle émission. Ensuite, il l'éteignait tout simplement et l'arrangeait. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons les enfants la regarder toute la journée. Et très vite, les enfants ont un esprit qui est juste corrompu par tout ce qui se trouve sur le tube idiot. Ils n'aiment l'ont pas traité de tube idiot sans raison. Parce que si vous vous asseyez et regardez ce truc, vous devenez ignare, vous devenez stupide. Des ordures à l'entrée, des ordures à la sortie. N'est-ce que nous, les informaticiens, disons, n'est-ce pas? Des ordures à l'entrée, des ordures à la sortie. Très bien, vous faites entrer des ordures. Ce sera autant pour vos actions, elles seront des ordures. 17. Les pensées qui n'ont pas de but tombent facilement dans les angoisses de la vie, et la recherche du plaisir et d'autres choses qui vous privent si facilement de la victoire, de la paix et de la grâce, et vous conduisent à une vie de faiblesse et d'apitoiement sur soi. Par conséquent, nous avons besoin d'avoir un but pour nos pensées, et une fois que nous avons une pensée déterminée, nous devrions nous appliquer à accomplir ce but. Pour surfaire, notre but devrait être d'unir nos pensées à nos actions, en unissant notre corps, âme et esprit en un seul être motivé par un seul but. Nous devons faire de ce but notre devoir suprême, et nous devons nous consacrer à l'accomplissement de ce but, n'y permettant pas à nos pensées de s'égarer dans des fantaisies, des désirs et des imaginations éphémères. C'est la voie royale de la maîtrise de soi et de la véritable concentration de la pensée. Et même si vous échouez encore et encore à accomplir votre but, comme vous échouerez sûrement jusqu'à ce que votre faiblesse soit surmontée, la force de caractère acquise par cela sera la véritable mesure du succès, et cela formera un nouveau point de départ pour la puissance et le triomphe futur. Il suffit de regarder Thomas Edison. Il a essayé près de 10 000 fois d'inventer une ampoule qui fonctionne, et finalement il l'a inventée. Mais que se serait-il passé s'il s'était arrêté après 9999 essais? Edison était peut-être découragé à la fin de chaque journée, mais chaque fois qu'il se relevait, le dé de découragement s'envolait. Inclinant simplement la tête dans la prière. Père miséricordieux, nous prions simplement pour que le dé de découragement s'envole aussi de nos vies. Puissions-nous n'aimer jamais nous décourager, mais d'attendre avec patience les promesses que tu nous as faites. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, décembre 2023. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourt@yahoo.com 18.